Bonjour à toutes et à tous, au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mercredi 24 juillet 2024. Voici le sommaire. Plus de 200 personnes ont péri dans un glissement de terrain en Éthiopie. Il s'agit d'un bilan provisoire pendant que les opérations de secours se poursuivent. Les familles des militants guinéens Oumar Sylla et Mamadou Biloba ont décidé de porter plainte en France. Ils espèrent que la justice internationale fera la lumière sur la disparition de leurs proches arrêtés le 9 juillet.
Le procureur de la République annonce que ces gens-là ont été kidnappés, alors que les familles étaient témoins de leur arrestation par la gendarmerie, mais également les forces spéciales proches du président de la transition, mais aussi du ministre de la Défense.
Interview d'Abdoulaye Oumousso, porte-parole du Front National pour la défense de la Constitution, à suivre dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'adresse aux Américains ce soir. Il évoquera entre autres les raisons qui l'ont poussé à renoncer à briguer un deuxième mandat. Un avion effectuant un vol intérieur au Népal s'est écrasé ce mercredi matin avec 19 personnes à bord. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. Au Niger, au moins 15 soldats et une vingtaine de terroristes ont été tués lundi dans des combats. L'annonce a été faite hier par le ministère nigérien de la Défense, Blanche Sanou.
Selon les autorités militaires nigériennes, une unité des forces de défense et de sécurité en opération s'est accrochée avec des groupes armés terroristes sur l'axe Bankilari-Tera aux abords du village de Foneko dans la région de Tillabéri. Le ministre nigérien de la Défense parle d'un bilan provisoire de 15 soldats tués, 3 disparus et 16 blessés pris en charge par l'hôpital de Tera. Le communiqué fait également état de 21 terroristes tués dans ces affrontements et 8 de leurs motos détruites. Le département de Tera est situé dans la vaste région de Tillabéri, au sein de la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, devenu un repère pour les djihadistes sahéliens affiliés à l'État islamique et Al-Qaïda. Cette attaque survient près d'un an jour pour jour après un coup d'État qui avait porté le 26 juillet 2023 un régime militaire à la tête du Niger, une prise de pouvoir que la junte a notamment justifiée par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays.
La famille d'un consultant belgo-portugais d'une ONG américaine a annoncé mardi qu'il observait une grève de la faim pour protester contre l'injustice et les conditions de sa détention après son arrestation fin mai dans le sud-est de la Centrafrique. Joseph Figuera Martin a été interpellé le 25 mai par des militaires à Zemio sur la frontière entre la Centrafrique et la RDC. Mi-juillet, le procureur de la République, Benoît Narcisse Foukpio, avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire après que les investigations ont révélé que M. Figuera a financé et coordonné, selon lui, les activités de certains groupes armés considérés comme des organisations terroristes, ce que l'intéressé dément. En Éthiopie, plus de 200 personnes ont péri dans un glissement de terrain survenu lundi après de fortes pluies. Le bilan reste provisoire alors que les opérations de secours se poursuivent. Eric Manirakiza.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est dit hier mardi profondément attristé par la perte tragique de nombreux citoyens qui ont perdu la vie dans un glissement de terrain soudain. Ce glissement de terrain est le plus meurtrier jusqu'ici publiquement rapporté en Éthiopie. Dimanche soir, il y a eu de fortes pluies qui ont duré longtemps et la catastrophe s'est produite lundi. Ces fortes pluies sont la cause principale de ce glissement de terrain dévastateur, a déclaré le directeur de la division alerte précoce à la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe. La catastrophe s'est produite dans une zone rurale, vallonnée et difficile d'accès à plus de 450 km et de 10 heures de route de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Les habitants de cette zone vivent en contrebas des reliefs rendus peu habitables à cause du froid. L'an dernier, plus de 20 personnes ont été tuées. L'État régional d'Éthiopie du Sud fait partie des nombreuses zones du pays touchées par des inondations en avril et mai durant la petite saison des pluies.
Au Cameroun, les autorités ont récemment pris une série de décisions préoccupantes. Le constat est de l'ONG Human Rights Watch qui dit redouter des mesures manifestement destinées à museler l'opposition et la dissidence. Les précisions avec Michel Joseph.
L'ONG de défense des droits humains indique dans son communiqué qu'il devient de plus en plus difficile de s'exprimer librement au Cameroun. Human Rights Watch déplore notamment la publication mi-juillet d'un arrêté préfectoral du département du Mfundi, où se trouve la capitale Yaoundé, menaçant d'une interdiction de séjour dans le département toute personne qui outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne. Le décret suscite légitimement l'inquiétude de professionnels des médias et de dirigeants de partis d'opposition qui le décrivent comme un recul en matière de droit à la liberté d'expression, poursuit le communiqué. Human Rights Watch s'inquiète aussi d'une récente mise en garde du gouvernement à l'encontre des leaders politiques d'opposition. Mi-juillet, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, René-Emmanuel Sadi, dénonçait la montée des propos injurieux contre les institutions et ceux qui les incarnent. Le ministre avait toutefois assuré que le Cameroun se veut une démocratie et un état de droit dans lequel les Camerounais peuvent s'exprimer sans aucune contrainte.
Les États-Unis ont annoncé hier de nouveaux pourparlers de paix pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage le Soudan. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a indiqué dans un communiqué avoir convié l'armée soudanaise et les paramilitaires des FSR, force de soutien rapide, à ces pourparlers de cessez-le-feu qui débuteront le 14 août en Suisse. Le général Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les FSR, a salué l'invitation de M. Blinken et annoncé la participation de sa formation. Les pourparlers, co-parrainés par l'Arabie Saoudite, incluant l'Union africaine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'ONU en tant qu'observateurs, a indiqué M. Blinken.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la directrice du Secret Service sous le feu des critiques depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump le 13 juillet a démissionné mardi au lendemain d'une audition parlementaire au cours de laquelle elle a reconnu un échec majeur. Kimberly Tittle, la patronne de ce service d'élite chargée de la protection de hautes personnalités américaines, faisait l'objet de nombreux appels à démissionner depuis les tirs ayant légèrement blessé Donald Trump. Le président américain Joe Biden s'expliquera ce mercredi soir sur sa décision de ne pas briguer un second mandat. Ce sera lors d'une adresse à la nation qu'il prononcera depuis la Maison-Blanche, où il est retourné hier après un confinement de près d'une semaine dans sa maison de vacances du Delaware. Jean-Roger Bion.
Le président américain a fait savoir mardi qu'il prononcerait une allocution à la nation depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche ce mercredi à 20h heure de Washington, pour expliquer sa décision de mettre fin à sa campagne de réélection. Joe Biden a annoncé abandonner la course à l'élection présidentielle de novembre dans une lettre publiée sur X dimanche, mais ne s'était pas épanché depuis sur les raisons qui l'ont conduit à cette décision. Via le réseau social X, le locataire démocrate de la Maison-Blanche a déclaré qu'il s'exprimerait sur, je cite, « ce qui nous attend et la manière dont je vais finir le travail pour le peuple américain ». Le président a assuré qu'il irait au terme de son mandat en janvier 2025 et a dit vouloir se focaliser sur ses fonctions présidentielles. Contraint de se placer en isolement mercredi dernier, après avoir été testé positif au COVID-19, Joe Biden a quitté mardi après-midi sa résidence du Delaware pour revenir à Washington.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a tenu hier son premier meeting de campagne en attaquant son rival Donald Trump et ce qu'elle considère comme son extrémisme. Le candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre veut ramener notre pays en arrière, a-t-elle lancé dans une allocution à Milwaukee dans le Wisconsin. M. Trump, qui tenait une conférence de presse virtuelle au même moment, a lui assuré que Kamala Harris serait plus facile à battre que Joe Biden lors de l'élection, en se disant prêt à débattre avec elle. Kamala Harris devance légèrement son rival selon un sondage publié hier, l'un des premiers réalisés depuis que le président américain s'est retiré de la course à la Maison-Blanche. Madame Harris surpasse M. Trump de 2 points à 44% d'intention de vote contre 42% selon ce sondage Reuters Ipsos. La semaine dernière, Madame Harris et M. Trump étaient à égalité à 44% dans une enquête réalisée par le même institut. Le sénateur démocrate Robert Menendez, reconnu coupable mi-juillet après son procès pour corruption, s'est finalement résolu à démissionner. Après avoir résisté pendant des mois aux appels à quitter son fauteuil, le sénateur de 70 ans a annoncé à son équipe son intention de démissionner formellement le 20 août. Le 16 juillet, il a été reconnu coupable par le jury d'un tribunal fédéral à New York de la totalité des 16 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés, notamment conspiration en vue de commettre des actes de corruption, conspiration pour agir en tant qu'agent d'un gouvernement étranger dans cette affaire en lien avec l'Égypte et le Qatar. Le sénateur connaîtra sa peine le 29 octobre, mais a déjà annoncé son intention de faire appel. Et puis, un avion effectuant un vol intérieur au Népal s'est écrasé ce mercredi matin avec 19 personnes à bord lors du décollage à Katmandou, la capitale, a rapporté le journal népalais Katmandou Post. 19 personnes, dont le personnel navigant, se trouvaient à bord de l'avion à destination de Pokhara, a indiqué le journal citant le porte-parole de l'aéroport Premat Thakur. Alors, selon les dernières informations qui viennent de nous parcourir, le pilote a été couru et il est en cours de traitement, a indiqué le porte-parole de la police. Beaucoup n'ont pas survécu, a-t-il ajouté. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
En Tunisie, les plages, notamment à Hammamet, sont confrontées à une érosion côtière alarmante, exacerbée par une urbanisation désordonnée et les effets du changement climatique. À l'approche de l'été, les autorités ont entrepris une vaste opération de rechargement en sable pour la préservation des plages qui reste cruciale. Le Botswana propose une loi qui demandera aux sociétés minières, une fois qu'elles auront obtenu une licence, de vendre une participation de 24% dans les mines à des locaux si le gouvernement n'exerce pas son option d'acquisition de la participation. Le Botswana peut acquérir une participation de 15% dans tout projet minier et négocier des participations plus importantes dans les mines de diamants dont il est le premier producteur mondial en termes de valeur. Pour terminer, la production des opérations de Sasol à Secunda, où cette société pétrochimique sud-africaine produit des carburants synthétiques et des produits chimiques à partir du charbon, est restée stable à 7 millions de tonnes.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Lady Gaga, Snoop Dogg, Céline Dion, les stars arrivent aux Jeux Olympiques 2024 de Paris.
Qui chantera à la cérémonie d'ouverture des JO? C'est une question qui s'oppose. Eh bien, à deux jours de l'événement, l'arrivée à Paris de Lady Gaga et Céline Dion en ont fait les favorites naturelles des pronostics, rejoignant Aya Nakamura dans le club des divas prétendantes. Les compétitions commencent vendredi, deux jours avant la cérémonie d'ouverture.
Le chef de l'ONU appelle à déposer les armes à travers le monde pendant les Jeux Olympiques.
Oui, le secrétaire général de l'ONU appelle à déposer les armes à travers le monde à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris dans un message vidéo qui sera diffusé lors de la cérémonie d'ouverture vendredi. Le monde se réunit à Paris pour célébrer le pouvoir du sport, pour apporter de l'espoir, pour transcender les cultures, unir les peuples, promouvoir le respect mutuel et le fair play, déclare Antonio Guterres dans ce message diffusé mardi par ses services. Ce sont également les idéaux des Nations Unies. Dans l'esprit de la trêve olympique, j'appelle tout le monde à déposer les armes, à bâtir des ponts, à encourager la solidarité et à tendre vers l'objectif ultime, la paix pour tous. L'Assemblée générale de l'ONU avait adopté en novembre sa traditionnelle résolution appelant tous les pays du monde à respecter la trêve olympique, à partir du 7e jour avant le début des JO, 26 juillet et 11 août, et jusqu'au 7e jour après la fin des Jeux paralympiques, 28 août et 8 septembre. Inspirée par l'ancienne tradition grecque de l'Ekeseiria, cette trêve a été réintroduite par l'ONU en 1993, suite à une initiative du Comité international olympique.
En football, les Girondins de Bordeaux renoncent à faire appel de leur rétrogradation en 3e division.
Les Girondins de Bordeaux, sextuple champion de France, ont annoncé hier mardi renoncer à leur appel contre leur rétrogradation administrative en 3e division nationale, faute d'accord avec le groupe américain Fenway Sports Group pour un rachat du club. Le club n'était jamais descendu aussi bas depuis l'acquisition du statut professionnel en 1937, déjà rétrogradé administrativement en 2021 de Ligue 1 à Ligue 2 et en 2022 de Ligue 2 à National, il avait été repêché in extremis.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Les familles des militants guinéens Oumar Sylla et Mamadou Biloba ont décidé de porter plainte en France pour disparition forcée, soutenue par le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Elles espèrent que cette action judiciaire internationale pourra lever le voile sur la disparition de leurs proches arrêtés le 9 juillet. Pour en savoir davantage, Nani Talani a joint Abdoulaye Oumousso, il est le porte-parole du FNDC.
C'est une initiative de la famille que nous accompagnons parce que les épouses ont passé plus de 2 semaines de calvaire, ils ne retrouvent toujours pas leur famille et il se trouve que le procureur de la République annonce que ces gens-là ont été kidnappés alors que les familles étaient témoins de leur arrestation par la gendarmerie mais également les forces spéciales, c'est-à-dire l'unité de la garde présidentielle. Donc ces familles ne comprennent pas que des unités qui sont proches du président de la transition mais aussi du ministre de la Défense, mais également la gendarmerie qui est sous la direction du haut commandant de la gendarmerie, disent ne pas connaître où sont détenus nos camarades.
Qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette plainte?
Mais nous attendons que la justice française se bouge et que nos camarades soient libérés par leurs ravisseurs, c'est-à-dire ceux qui sont cités dans la plainte, et que rien ne les arrive, parce que nous pensons qu'ils n'ont rien fait pour être arrêtés, rien ne devait les arriver. Et à notre avis, c'est une arrestation extrajudiciaire et devrait être tout simplement libéré sain et sauf.
Pourquoi avoir choisi de déposer cette plainte en France plutôt qu'en Guinée ou dans d'autres juridictions?
Les familles ont décidé de porter la plainte à Paris parce que les mises en cause sont des personnalités qui ont une double nationalité, c'est-à-dire la nationalité guinéenne et celle française. Au-delà de cela, l'unité mise en cause est une unité qui est formée et financée par la France. L'unité de la GIGN, cette unité de la gendarmerie qui a participé au kidnapping de nos camarades, est une unité qui a été mise récemment par la coopération militaire entre la France et la Guinée.
Quelles sont les prochaines étapes pour les FNDC concernant cette affaire? Est-ce que vous envisagez d'autres options, d'autres actions?
Oui, nos avocats ont déjà saisi la CPI pour enlèvement et séquestration et disparition forcée. Nous comptons aussi saisir les Nations Unies, la justice aussi au niveau de la CEDEAO, mais aussi de l'Union africaine, la Cour de justice de la CEDEAO et de l'Union africaine. Parce que ce qui est en train de se passer là est inacceptable et nous pensons que ce sont des disparitions forcées et cela devrait cesser et nos camarades devraient être libérés. Et des actions judiciaires, nous allons les mener, mais nous allons nous battre aussi sur le terrain aussi pour pouvoir faire libérer nos amis parce qu'ils ne méritent pas le sort qui leur arrive et ceux qui les infligent le sort là n'est pas plus guinéen que eux. Ils n'ont pas plus de droits dans le pays qu'eux.
Abdoulaye Oumousso, porte-parole du FNDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Bénin, la pratique de la scarification faciale fait partie de la tradition. La scarification, un signe communautaire, est considérée par certains comme une marque de distinction et un moyen de soigner des maladies et sauver de l'envoûtement selon des croyances traditionnelles. Mais cette pratique est délaissée, voire bafouée, et fait même parfois l'objet de railleries. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Même si les scarifications sont méconnues des générations de l'ère moderne, certains en savent énormément.
La scarification est une marque identitaire. On se scarifie pour lutter contre certaines maladies. Ça peut arrêter la maladie dont l'enfant souffre. C'est sous forme de vaccin.
Les scarifications sur le visage, c'est des marques.
C'est quand tu es malade, confie à Tunisien. Il faut faire ça nécessairement parce que c'est pour lutter contre une maladie.
Emi Tchefa est sociologue. Pour lui, la scarification ou les éducatrices raciales ont des rôles bien au-delà de ce que pensent certains.
La première, c'est la fonction thérapeutique. Vous êtes déjà malade et dans le but de vous guérir, le médecin traditionnel ou endogène vous prescrit une sorte de scarification ou carrément vous scarifie. La deuxième fonction, vous n'êtes pas encore malade, mais dans une dimension magico-religieuse et dans le but de prévoir une maladie, vous êtes scarifié. Et la troisième fonction, c'est la fonction esthétique. Il y en a qui tracent ou dessinent leur litanie clanique.
Après s'être confronté au dictat de la modernisation, la pratique de la scarification est devenue impopulaire au sein de la société. Plus personne ne veut être balafré ou cicatrisé. Certains y voient de la violence inutile.
On n'a pas besoin de scarifier quelqu'un ou de montrer que celui-ci appartient à une ethnie ou soit celui-ci doit faire tant, doit faire tant.
J'aime pas que les objets tranchants touchent mon corps. Donc, j'aime pas du tout. Je déteste ça. J'aime pas.
De nos jours, je pense qu'on doit l'éradiquer complètement. Cela porte atteinte à une personne. On a tendance à croire que cette personne est peut-être sous maltraitance.
Si j'étais enfant, peut-être qu'on m'aurait forcé. Mais maintenant, j'aurais dit non parce que mes croyances personnelles aujourd'hui ne permettent pas de le faire.
D'autres se morfondent à cause de ces marques sur leur visage. Ils considèrent qu'on leur a déchiré le visage sans demander leur avis. Mais pour le professeur Léon Biobigou, enseignant-chercheur à l'Université du Bénin, aujourd'hui la négociation peut se faire pour ne pas porter ses cicatrices. Un refus catégorique peut avoir des conséquences.
Bon, voilà, tu as fait un enfant qui est très joli et tu as vu que bon, cette scarification peut rendre ta fille un peu laide. Tu peux demander à la grande famille, au Dieu, et donner de l'argent pour la cérémonie pour acheter cette scarification. Donc ça n'a pas de taux d'inconvénient. Quand on parle avec la divinité, qui accepte les scarifications, on parle bien avec eux, il ne faut plus rien, ça n'agit pas, ça n'a pas de conséquences sur l'enfant.
Tout évolue et c'est dans cette dynamique qu'on peut s'adapter d'une manière ou d'une autre à l'évolution. Mais dans le contexte culturel de plusieurs ethnies, surtout dans le nord du Bénin, la scarification n'est pas négociable, au risque d'attirer la colère des dieux. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Allons maintenant à la découverte de Tembe Lani Zondo, un jeune inventeur de la ville de Woodworth dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal. Il utilise des matériaux recyclés pour construire des voitures et des robots. Zondo a de grands rêves et dit qu'il espère avoir un jour l'opportunité de faire la différence grâce à ses talents. Le journaliste Ishan Afiji est allé à sa rencontre. Le récit est de Blanche Sanou.
Tembe Lani Zondo, 22 ans, s'est fait un nom dans sa communauté en créant toutes sortes d'inventions intéressantes avec des ressources limitées. Le jeune inventeur ne désespère pas malgré sa situation. Il est doté, dit-il, d'un talent qu'il peut utiliser pour changer la vie des gens. Écoutons Tembe Lani Zondo, un inventeur sud-africain.
Je peux créer n'importe quoi à tout moment. Dans ma jeunesse, je créais des choses. C'est un talent qui vient de Dieu.
Tembe Lani a fait la une des journaux locaux lorsqu'il a dévoilé une voiture qu'il a construite de toutes pièces. Bugatti, une marque de luxe européenne qui peut coûter des millions de dollars, est le constructeur automobile préféré de Tembe Lani. Il n'aura jamais les moyens d'en acheter une vraie, alors il a décidé de construire son propre modèle en utilisant des matériaux recyclés. Écoutons à nouveau Tembe Lani Zondo, un inventeur sud-africain.
Ce qui m'inspire, c'est d'abord que j'aime trop les voitures. C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé d'en créer une. J'ai créé la Bugatti Shark parce que cette voiture est la meilleure pour moi. C'est la marque que j'aime.
Tembe Lani vit dans une maison modeste avec sa mère et 7 frères et sœurs. La famille survivant grâce à l'aide du gouvernement. Tembe Lani a abandonné l'école en 11e année, affirmant qu'il avait du mal à se concentrer en classe. Depuis, il est au chômage. Les matériaux pour ses inventions sont difficiles d'accès et il utilise souvent des matériaux recyclés dans sa communauté. Sans formation formelle en mécanique, il s'est désormais tourné vers la robotique. Tembe Lani Zondo travaille sur quelques inventions, notamment un bras robotique qui, espère-t-il, pourra un jour aider les personnes handicapées.
Tout
mon travail de robotique vise à aider les personnes handicapées, car j'ai créé le robot manuel pour les personnes qui ont perdu leurs mains, parce qu'il y a tellement d'accidents quotidiens. Donc je suis prêt à les aider.
Tembelani n'a fait connaître ses inventions que sur les réseaux sociaux. Son talent et son travail acharné n'ont malheureusement débouché sur aucune opportunité concrète de la part du gouvernement ou du secteur privé. Le taux de chômage en Afrique du Sud parmi les jeunes âgés de 15 à 34 ans est de 45,5% selon les données nationales du pays. Tembelani Zondo fait partie de ceux qui luttent pour obtenir un emploi stable.
Je me sens très très triste. Je souhaite trouver quelqu'un qui m'aidera avec un emploi ou qui peut me financer pour que je puisse peut-être démarrer une petite entreprise, quelque chose comme un atelier pour que je puisse créer de bons projets.
Le manque d'opportunités continue d'être une source de frustration pour les jeunes sud-africains, mais Tembelani s'est dit déterminé à surmonter sa situation et à réaliser ses rêves.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington. Il doit prononcer un discours devant le Congrès et participer à une réunion à la Maison-Blanche. Sa visite intervient après la décision du président Joe Biden de se retirer de la course à la Maison-Blanche, ce qui pourrait ajouter une nouvelle couche d'incertitude aux relations américano-israéliennes à un moment crucial de la guerre à Gaza. Gabi Dorsil nous relate ce reportage préparé par Patsy Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche.
Les frappes israéliennes dans l'est de Khan Younis ont tué des dizaines de personnes lundi. Des centaines d'autres ont fui après les ordres d'évacuation. Voici la scène que le premier ministre israélien a laissée derrière lui pour se rendre sur un autre champ de bataille, politique celui-là, alors que la campagne présidentielle américaine est bouleversée suite à la décision du président Joe Biden de ne pas se présenter pour un second mandat.
Je chercherai à ancrer le soutien bipartisan qui est si important pour Israël. Je dirai à mes amis des deux camps que, quelle que soit la personne que le peuple américain choisira son prochain président, Israël reste l'allié indispensable et fort de l'Amérique au Moyen-Orient.
C'est ce qu'assure publiquement le dirigeant israélien. Mais les analystes disent que dans la course potentielle à la Maison-Blanche entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump, Netanyahou préférerait un républicain. Écoutons Jonathan Reinhold, directeur du département d'études politiques de l'université israélienne Bar-Ilan, via Skype.
Les républicains soutiennent davantage le programme de sécurité d'Israël. C'est vrai, quel que soit le parti au pouvoir en Israël. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils sont plus indulgents envers le gouvernement de droite d'Israël.
Netanyahou aurait demandé à rencontrer l'ancien président Trump, qui a lancé d'importantes politiques pro-israéliennes pendant son mandat. Trump a négocié les accords d'Abraham, qui ont normalisé les liens diplomatiques d'Israël avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Il a déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à la Jérusalem contestée et a reconnu l'annexion par Israël du plateau syrien du Golan. Aaron David Miller, ancien négociateur américain pour le Moyen-Orient, via Skype.
Avec Kamala, il obtiendra probablement quelqu'un qui restera à peu près dans le courant dominant lorsqu'il s'agira de soutenir les relations entre les États-Unis et Israël, mais qui sera, je pense, beaucoup plus dur, certainement sur le plan rhétorique à l'égard des activités de colonisation israélienne et beaucoup plus sympathique à l'égard de la souffrance et des droits des Palestiniens.
En fin de compte, l'objectif principal de Netanyahou à Washington est de préparer le terrain en prévision de la prochaine administration américaine. Et à l'approche des vacances de 3 mois de la Knesset, il s'agit de faire avancer ses propres objectifs au sein de sa fragile coalition. Pendant cette période, Netanyahou pourrait éventuellement aller à l'encontre des factions d'extrême droite de sa coalition et conclure un accord de cessez-le-feu avec le Hamas après environ 9 mois de guerre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré la semaine dernière qu'un tel accord était à portée de main.
Je crois que nous sommes sur la ligne de Dillard et que nous nous dirigeons vers la ligne de but pour obtenir un accord qui produirait un cessez-le-feu, ramènerait les otages à la maison et nous mettrait sur une meilleure voie pour essayer de construire une paix et une stabilité durable.
Cependant, la plupart des analystes doutent que l'accord de cessez-le-feu aille au-delà de la première phase, une pause de 6 semaines dans les combats en échange d'une partie des otages détenus par le Hamas.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Mfaye Sival au Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, autrefois Twitter. Merci de rester à l'écoute du programme de VOA Afrique. À très bientôt.